Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'émission Ambient Memory, l'interview. Je reçois ce soir un artiste que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre sur les ondes de Radio Graphite, de par ses productions, mais également de par son label qui est très prolifique. Yann, que vous connaissez sous le pseudonyme de Musique Moléculaire, qui est aussi le nom de son label, il est de retour ce soir pour nous parler de toutes ses sorties, de son travail titanesque pour le label Musique Moléculaire, de ses projets à venir, bref, une interview encore très riche. Bonsoir Yann. Comment vas-tu ?
Bonsoir Philippe. Ça va bien toi-même ?
Oui, impeccable. Hein. Eh bien écoute, bienvenue de nouveau sur l'antenne de Radio Graphite et plus particulièrement dans l'émission Ambient Memory. Eh bien très heureux de te recevoir de nouveau hein, pour que tu puisses nous parler de Musique Moléculaire, qui est ton projet musical au départ, et puis qui est devenu aussi un label, enfin, qui a le même nom, Musique Moléculaire. On va parler de tout ça, de cette évolution, mais déjà, est-ce que tu peux te présenter ou te représenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, savoir qui tu es, Yann.
Ah ben voilà, Yantro Alain que je suis, un drôle de façon à se présenter, n'est-ce pas ? Je suis en fait... tout simplement quelqu'un qui tripe sur la musique expérimentale, qui aime en faire, puis à force d'en faire à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un label de ce même genre de musique, mais aussi d'autres genres un peu parallèles, en autant que ça soit expérimental, c'est tout ce qui m'intéressait en fait. Puis voilà, j'adore partager les musiques que j'aime, de temps en temps d'en faire, là j'ai un peu moins de temps pour en faire, mais ça c'est pas un goût qui est disparu, j'aime toujours ça. C'est ça, voilà, grosso modo.
D'accord, oui, après c'est la musique expérimentale et puis on verra après par le biais de ton label des choses un peu noise, dark ambiante, expérimentale comme tu le disais il y a quelques instants. Donc justement, Musique Moléculaire, c'est parti d'un projet en fait, c'est toujours d'ailleurs ton nom d'artiste. Donc tu avais sorti quelques pièces qui étaient quand même assez longues, c'est pour ça que je parle de pièces et pas forcément de morceaux, parce que c'était des morceaux qui duraient plus de 40 minutes, hein, presque une heure même pour certains. Justement,
c'était rare.
Peut-être,
en général, c'était à peu près une vingtaine de minutes, de temps en temps une trentaine, puis de temps en temps, bon, j'allais encore plus loin. Mais tu sais, les très gros morceaux sont beaucoup plus difficiles à faire que les plus petits, mettons, de 20 minutes. Puis dans le fond, c'est un peu ingrat, parce que finalement, un très grand morceau, très chargé, très diversifié, des fois, ça ne nous tente pas nécessairement de nous taper une écoute d'un morceau aussi long que ça, aussi charnu. On va préférer, entre guillemets, une petite vide de 15-20 minutes. Mais c'est au goût de chacun, mais c'est ça. Je trouvais que finalement, c'était entre guillemets plus payant de faire deux morceaux de 20 minutes, parce que les deux morceaux vont avoir chacun leur saveur, puis les gens vont pouvoir les écouter plus facilement, à mon avis à moi, chacun de ces deux morceaux-là, plutôt qu'un énorme d'une heure. Mais encore là, ça dépend des styles et des goûts, là, mais à date, c'est ça que j'avais eu comme plaisir jusqu'à maintenant.
Oui, tout à fait. Après, c'était des pièces, en fait, il fallait vraiment se poser pour les écouter, pour vraiment se plonger dans son imaginaire, pour pouvoir vraiment apprécier pleinement le morceau. Et du coup, après, tu commençais, comme je disais, sur Musique Moléculaire, et quel a été vraiment le déclic, l'étincelle, justement, pour proposer justement le label Musique Moléculaire? Comment en es-tu arrivé là?
Comme on a pu vraiment amplement faire des albums un après l'autre, des longs morceaux, trippé en masse. On était rendu à facilement une cinquantaine de musiques moléculaires, surtout des EP, là, d'une durée d'à peu près 20 minutes, une demi-heure max. C'est ça, c'est à un moment donné, c'est pas qu'on a fait le tour, mais ça ralentit un peu d'une façon naturelle. À un moment donné, tu as besoin nécessairement de mettre une petite pause, de te demander, c'est quoi tu veux finalement maintenant, qu'est-ce qu'on veut, parce qu'on était deux, là. Même si quelque part, j'ai toujours dirigé ça quelque part, parce que c'est moi qui fais les mix, c'est moi qui fais le mastering, c'est moi qui avais l'idée du concept de musique moléculaire, mais en même temps, sans mon compatriote, ça serait jamais ce que ça aurait pu devenir, bien sûr, parce que nos deux folies unies, c'était 100 fois mieux que juste la folie de l'un ou de l'autre. Fait que c'est ça, c'est que malgré que ce fut une expérience vraiment palpitante, ben, à un moment donné, je me suis dit, faudrait essayer autre chose. Donc, il est arrivé deux choses en même temps. C'est-à-dire, on a fait une petite pause du côté de musique moléculaire, de pas si long que ça, là, mais de quelques mois. Puis, à ce moment-là, à peu près dans le même bout de temps, j'ai connu Yannick, tu sais, qui est le gars qui est derrière Raphaël Furax. Puis, on s'est mis à clipper vraiment, juste du fait de se parler au téléphone. On a vu qu'on avait plein d'atomes reçus de goûts musicaux en commun. Puis, on s'est mis à faire un projet ensemble. C'était Anywhere Out of the World. Fait que ça, c'était la première musique que j'ai faite en dehors de musique moléculaire. C'était donc un nouveau duo, un autre duo, avec un petit peu les mêmes paramètres, mais évidemment quelque chose de différent, parce que ben, Yannick est différent, ça c'est sûr. On a fait quelque chose qui était peut-être plus cinématographique, quelque chose comme ça, plus free recording cinématographique. Puis il y avait tout ce qui est Yannick, autrement dit, qui est moins dans ma spécialité, les beats, puis certains genres de sons qui sont propres à lui. En tout cas, ça a été une très belle expérience. Fait que ça a été la première expérience qui m'a fait essayer autre chose que musique moléculaire. Et par après, je me suis dit, je vais entreposer ces albums de Anywhere Out of the World, à quel endroit? Ben, je me suis dit, autant les mettre sur mon Bandcamp de musique moléculaire, ça va être plus simple comme ça, parce qu'il y a déjà un public pour musique moléculaire, donc instantanément, ça donne ce même public-là une visibilité, à ce même public-là une visibilité intéressante pour Anywhere. Puis par après, Yannick de Anywhere s'est mis à faire beaucoup de Raphaël Furax, des albums solo, puis je me suis mis à le publier sur mon label. Ça devient en fait mon label. Puis je me suis dit, ben, on va étendre ça à tout le monde. Quelque chose comme ça, en gros.
D'accord, bah oui, après, du coup, la machine était lancée. Donc, après, bah justement, Anywhere Out of the World avec Raphaël Furax, donc ton binôme, si je puis dire, parce que bah, vous êtes deux, ouais, c'est ça que j'oubliais de préciser, c'est que le label Musique Moléculaire, c'est vous deux, en fait, qui... Mais que, bah justement, plus toi qui dois chapeauter, j'imagine, comme tu le disais tout à l'heure. Et après, donc, bah, ça a été la continuité. Donc, il y a eu d'autres artistes aussi qui sont venus. Donc, bah, justement, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est des gens qui sont venus te voir en disant, voilà, j'ai un album à proposer. Est-ce qu'il est possible d'être sur le label? Ou c'est toi qui a contacté les gens parce que voilà, leur musique te plaisait? Comment ça s'est passé, justement, le fait d'avoir autant d'artistes qui viennent sur ton label?
Oui, ça s'est fait clairement peu à peu. Disons qu'au départ, je me suis mis à publier un petit peu d'autre chose que musique moléculaire. Pendant un certain temps, là, c'était essentiellement... Bon, il y avait eu les Anywhere, Out of the World, il y en avait eu quatre d'affilée. Après ça, il y a eu des Raphaël Furax. Puis là, après ça, c'est ça. Quelques artistes qui m'avaient contacté, qui étaient intéressés à publier quelque chose. Mais ça se précipitait pas par centaines, mais c'est pas parce que, bon, en partant, j'ai jamais eu une audience hallucinante, donc c'est un public plutôt expérimental d'entre les expérimentales. Fait qu'il y a quelques-uns qui m'ont contacté. Ça m'a intéressé quand j'ai écouté qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, je les ai publiés. Puis, c'est ça, pendant un bon bout de temps, ça allait pas vite, ça allait tranquillement pas vite, mais c'était des gens, des artistes qui me contactaient par-ci, par-là, puis c'était tout, ça a donné très bien. C'était des genres que je trouvais différents et complémentaires au genre de choses que j'ai pu faire. Donc, pour moi, ça faisait partie de la sphère d'intérêt, si on veut, de mes intérêts à moi, donc du label, parce qu'il y a une adéquation là-dedans. C'est évident que je ne vais pas publier quelque chose que je n'aime pas, carrément pas. Là. C'est pour moi, tout le plaisir du label est là, tout ce que je publie, je l'aime, mais il y a des degrés différents, c'est sûr et certain, c'est comme n'importe quoi. Là, on a des fois aussi des préférences qui changent dans le temps. Là, on vient juste de sortir un album qu'on aime particulièrement, bon, on est sur celui-là. Des fois, on redécouvre un ancien, puis ainsi de suite. Mais tout ça pour dire que c'est un plaisir très, très dynamique de voir toutes sortes de monde, toutes sortes de comment dire, d'origine qui me demandaient, est-ce que t'aimerais publier tel album que j'ai fait ou toute ma musique intéressante assez pour un album un jour, des choses comme ça. Puis par après, ben, je me suis mis à chercher moi aussi, tant qu'à faire, hein, des artistes qui pourraient publier sur mon album. En fait, c'est que j'avais déjà des artistes que j'avais remarqués depuis longtemps parce que j'appréciais leurs œuvres. C'est ça, tranquillement, pas vite, je leur ai demandé à certains ce que ça vous tente. Puis pour la plupart, ils ont dit oui, j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà.
Bah oui, il y a pas mal d'artistes qui sont passés, notamment d'Ambient Memory. Donc, il y a Copper Gear aussi, c'est un artiste canadien qui lui aussi est très prolifique parce qu'il produit énormément de morceaux. Après, il a aussi créé son propre label aussi, Steampunk Records. On l'a eu il y a quelques semaines en interview. Des artistes aussi de Lettonie, Lunt aussi, qu'on a découvert par le biais de Musique Moléculaire, qui fait pas mal de pièces. Après, un artiste français, une jeune femme, Midnight Totem aussi, que tu as pu produire. Tu as produit un de ses albums, je crois, HPR,
ah,
si
oui.
Ça s'appelle.
Oui.
Innocent But Guilty aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, après, il y a pas mal de choses. Christophe Pechanas. Après, il y a des artistes plus... alors, je ne sais pas s'ils sont canadiens. Eden Loshwin, je ne sais pas si on dit comme ça. Man in the Shadow.
Lui, c'est écossais.
Écossais, d'accord.
Oui, d'Écosse. Oui.
D'Écosse, c'est pareil. Voilà, c'est, tout ça pour dire qu'il y avait
En fait, c'est Yale. Lui, c'est D'Écosse.
D'Écosse, il y a des artistes de tous horizons. Justement, est-ce que tu as une... Enfin, tu parlais de musique expérimentale, c'est surtout moi, de dark ambient, de noise. Est-ce que, justement, il y a une couleur musicale qui t'attire plus que d'autres, ce qui fait que tu as ces artistes, ou c'est vraiment libre choix à partir du moment où la musique te plaît, enfin, les productions te plaisent, l'artiste peut être, entre guillemets, signé sur ton label?
Ah, signé, c'est comique. En fait, signé, c'est y a aucune signature, juste pour dire en partant. C'est simplement quelqu'un est intéressé, ou je demande à quelqu'un, en tout cas, qui est intéressé, un ou l'autre, et ben on s'entend. Je dis, je vais publier l'album. Puis il me répond que c'est correct. Si cette personne-là me demande d'ôter l'album, je vais l'ôter. T'sais, non, c'est tout. L'album ne m'appartient jamais. C'est un album que j'entrepose sur le label qui permet de faire connaître. Puis d'avoir des ventes, oui, bien sûr, mais on s'entend qu'à 1$ canadien, là, c'est plus une façon de parler des ventes. Là. C'est que si on les mettait complètement gratuits, au niveau de Bandcamp, ça poserait problème parce que tu peux pas avoir des téléchargements à perpète. Hein. Donc, ils finiraient par me demander de payer pour les téléchargements gratuits des gens. Fait que là, je me dis, bon, là, ça n'a pas de sens. Fait que je veux tout simplement garder ça comme ça, le moins cher possible pour être plus accessible possible. Pour revenir à la question, les gens qui m'intéressent, ben c'est sûr et certain que bon que ça me plaise, c'est la première des choses. Donc, des fois, ça peut me plaire sans que ça soit dans les styles les plus traditionnels de ce que je publie sur le label. C'est sûr qu'il y a des styles que je préfère, ceux que j'ai moi-même pratiqués, c'est autrement dit du dark ambient, du noise, même du harsh noise, musique qui a une tendance industrielle, tout ça, là, c'est évident que ça me plaît d'emblée très facilement, quoique j'ai déjà quand même beaucoup de monde déjà de publier qui ont ces styles-là, mais j'adore ça, puis je vais continuer à en publier des artistes différents, mais c'est ça, tu vois, d'emblée, quand j'avais publié les Raphaël Furax, ça, c'était une sorte de métal, mais très expérimental, complexe, qui est loin d'être une musique métal ordinaire. T'sais, de fait, c'est pas tout le monde, c'est pas le goût de tout le monde qui aime le métal, qui va dire, que nécessairement, ils vont adorer ça, parce que c'est très expérimental. Mais est-ce que je dis de façon officielle que je vais prendre de la musique métal tout simplement sur mon label, j'en fais pas une grosse publicité parce que je vais être plus difficile sur ce genre-là, parce que je vais l'aimer, mais de façon très expérimentale, pas juste comme du simple, mettons, black metal ou du simple, vous comprenez ce que je veux dire, death metal ordinaire, que je vais aimer, que je vais apprécier, mais que je tiens pas spécialement à publier sur le label. Ça va être la même chose pour les musiques qui ont une tendance vers le trip-hop ou hip-hop. C'est des choses que je peux apprécier, bien sûr, personnellement, mais je ne vais pas publier un simple album de hip-hop normal. Mais si c'est quelque chose de plus tordu, étrange, dark, ça m'intéresse. Je n'ai pas encore de ce genre-là de publier sur mon label, mais c'est garanti que ça m'intéresse. Mais j'ai un petit peu de trip-hop, mais il y a encore une grande place à avoir des nouveaux artistes de ce côté-là. Voilà.
Tu es toujours à la recherche d'artistes, du coup, j'imagine, pour justement agrémenter.
Absolument. Incroyablement, j'en ai plus de 100 déjà. C'est quand même incroyable. Plus de 100, c'est sûr qu'il faut quand même relativiser. Quand je dis plus de 100, il y en a, c'est des artistes solo, des vraies personnes là, qui se présentent sous leur vrai nom. Dans d'autres cas, c'est des duos. Donc, des projets avec deux personnes. Fait que des fois, ça se peut qu'on a un duo, puis on a, après ça, une des deux personnes du duo qui sort quelque chose de solo. Fait que c'est sûr, tu sais, quand je dis 100 artistes, ça ne veut pas dire 100 personnes, mais ça peut vouloir le dire aussi des fois, parce que, bon, il y a un duo qui peut avoir deux personnes dedans, ou potentiellement un projet avec plus de personnes, tu sais, 3 ou 4, peu importe. Mais c'est plus rare au sein du label.
Oui, surtout des duos, les groupes, non, il y a peut-être pas, que ce soit artiste simple ou justement duo. Voilà, mais de toute façon...
Ah, excuse-moi, j'ai pas assez répondu à la question.
Non, mais il n'y a pas de souci.
Même si j'ai beaucoup d'artistes, plus de 100, j'en prendrai encore et encore et encore sans aucun problème. Mais là, ce que ça implique, n'est-ce pas, c'est que j'ai évidemment une certaine limite à pouvoir donner du temps à tout le monde en quantité suffisante. C'est là où le bas blesse potentiellement. Mais je suis pas encore rendu là. Je suis pas encore dans la situation où 50 personnes en même temps me demandent de sortir un album la même semaine. C'est sûr que ça risque peu d'arriver, mais mettons que les journées que je vais être proche de ça, là, je vais dire, OK, je pense que en principe, j'ai assez de monde sur mon label. Donc, parce que c'est ça l'affaire, c'est un hobby, c'est pas un travail comme tel, c'est pas mon truc rémunéré dans lequel je peux passer comme presque 100% de ma vie là-dessus. Ce qui fait que j'y vais plus par la passion, l'enthousiasme. Donc, c'est ça. 3 fois par semaine, je sors un album, puis j'y mets du temps, mais je peux pas en mettre plus que ce que je peux en mettre. Donc, c'est ça. J'aime beaucoup, beaucoup publier des nouveaux artistes parce que pour moi, ça rend le label plus intéressant, plus dynamique. Mais je m'attends quand même pas à en avoir 500 au bout d'un an. Ça serait plus probable. 500 artistes en même temps, là.
Oui, après, déjà 3 albums par semaine, sachant qu'il y a 52 semaines, donc ça fait plus de 150 albums par an, ce qui est un sacré rendement, hein, du coup. Bon, après, je ne sais pas si tu t'arrêtes pendant les vacances, que ce soit les vacances estivales ou quoi, mais c'est vrai que du coup, c'est, comme je disais au début de l'émission, c'est prolifique, enfin un label prolifique, puisque du coup, on a un panel d'artistes. Toutes les semaines, on découvre au moins 3 artistes, ou même si on connaît l'artiste, c'est un nouvel album ou un nouvel EP. Donc, ça demande beaucoup de travail. J'imagine, comme tu disais, voilà, ce n'est pas ton travail principal, tu as une vie professionnelle à côté. Du coup, ça demande beaucoup de temps, puisque tu fais le mastering, tu sais ce que tu disais tout à l'heure, donc ça doit être très, très chronophage, ça doit te prendre du temps, mais c'est la passion qui trime avant tout.
Le mastering, cela dit, j'ai fait le mastering de mes albums à moi, ou ceux faits par mon compatriote Men in the Shadow, okay, qui était celui avec qui je faisais musique moléculaire à l'origine, là, l'ancien duo. Donc, Men in the Shadow, maintenant, quand il fait de la musique, c'est solo. Ou, avec moi, ça s'appelle Scutigère et Men in the Shadow. Là, des trucs qu'on a fait qui étaient extrêmement, extrêmement harsh noise et destroy. C'est ça. On avait, semble-t-il, le goût de faire quelque chose de pas mal plus intense que ce qu'on avait fait avec musique moléculaire. On s'est bien satisfait. Mais comme n'importe quoi, je pense qu'on a aussi d'autres goûts que juste des trucs totalement destroy. Je pense que c'est ça. Là, on a chacun des petites pauses au niveau musical parce que ça vaut la peine de prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut essayer, qu'est-ce qu'on veut. C'est pas toujours évident. Fait qu'en attendant, je publie les albums des autres. C'est déjà une activité extrêmement passionnante.
Tout à fait, puis tu as un large panel, parce que tu parlais de musique expérimentale, mais il y a des choses très douces, rythmées, moins rythmées, voilà, donc c'est assez, assez divers, donc tu laisses carte blanche, oui. Enfin, j'imagine, aux artistes.
Je tiens à ça, je tiens beaucoup à ce qu'il y ait justement des musiques plus douces, parce qu'au départ, avec ce que je faisais moi-même, puis les pionniers, là, sur les premiers artistes qui étaient sur le label, en général, c'était assez intense, merci, c'est pas moins intéressant selon mes goûts à moi, mais je trouve que c'était moins intéressant pour la moyenne de la population qui aime la musique underground, expérimentale. Je me disais, dans le fond, que le plus intéressant, comme opportunité que j'ai avec le Lego, c'est d'avoir aussi des musiques que j'aime autant, qui sont plus douces, qui sont, disons, au lieu d'être super dark, disons, ils vont être plus mystérieuses, tu sais, donc quelque chose qui, OK, on est dans le monde de l'étrange, mais un peu moins épouvantable. Donc, c'est ça, c'est un peu, tu sais, dans le clair-obscur. Donc, ce genre de personnes qui aiment des musiques comme ça peut parfois aimer des musiques plus intenses, mais peut-être que de façon naturelle, il n'aurait pas été pioché dans les musiques intenses. Mais le fait de croiser parfois des musiques intenses sur le label ou ce qui est publié lui-même, ça peut des fois dire « Ah, OK, aïe, c'est la race, finalement, c'est quand même intéressant. » Puis vice-versa, hein, il y a des gens qui aiment la grosse musique intense, puis ils vont aimer de temps en temps une musique plus douce, puis tu vas rester surpris. Fait que ça, c'est une des choses qui me passionne littéralement le plus sérieusement, c'est de voir les goûts des gens. C'est fascinant. C'est, des fois, il y en a que c'est clair et net. Il y a tel artiste, c'est seulement tel artiste, that's it, puis ils sont capables d'en acheter un après l'autre. C'est comme il y en a un qui avait acheté une année, tous les Men in the Shadow, un après l'autre. Je n'en revenais pas. Un après l'autre. À toutes les minutes, il y en avait un qui était acheté. En tout cas, j'avais trouvé ça vraiment trippant. Puis des fois, il y en a d'autres qui, c'est ça, ils se manifestent pas pendant un bout de temps, puis subitement, ils achètent une pléiade d'artistes, mais très à la fois différents et dans certaines zones, que j'essaie de déterminer qu'est-ce que c'est quoi. Tu sais, j'essaie de voir un peu, my God, c'est quoi l'univers musical de celui qui a acheté ça? Parce qu'il y en a, que, bon, des fois, ça a l'air moins sérieux. Il y a des gens qui ont des discographies de 50 000 albums. Bon, ça, j'ai rien contre ça, mais sérieusement, est-ce qu'ils écoutent moindrement les 50 000 albums qu'il a? J'en doute fort. Ça, c'est plus des compulsions. Monsieur Jean-Michel, pareil, tant mieux s'il achète un album par ce moment-là. Mais je me dis, vraiment, ce qui est intéressant, c'est des fans qui n'ont pas seulement des énormes discographies à n'en plus finir. Tu sais. C'est des gens qui, non, ils ont des goûts, ils achètent quelque chose quand ils veulent vraiment l'écouter et non pas juste acheter pour acheter. Puis là, c'est fun de voir, c'est ça, c'est quoi les différents amalgames de goûts de musique étrange. Parce que ça reste des musiques étranges en général, mais des fois, tu vois, ils vont combiner des trucs harsh noise avec des côtés beaucoup plus doux, tu sais, à la limite du film recording, la musique qu'on fait, des choses comme ça. Là, tu restes surpris. Là, tu vois que ah, c'est intéressant, ça. Mon pari, il est réussi. Il n'y a pas juste moi, finalement, moi qui fais le Lego, qui aime toutes sortes de genres, tous ces genres-là en même temps. Bon, c'est peut-être pas la moyenne qui aime tous les genres que je publie en même temps, mais il y a quand même plus de monde qu'on pourrait s'imaginer qui aime plusieurs styles qu'on dirait pas nécessairement compatibles. C'est ça, je dirais.
D'accord. Et du coup, pareil, donc, bon, un vaste panel de musique. Est-ce que, au niveau, pareil, des pochettes, c'est libre tu donnes une carte blanche, justement, aux artistes pour élaborer leurs pochettes, ou toi, tu as ton mot à dire ou ta touche personnelle à mettre sur les pochettes des différents albums?
La façon que ça marche, c'est sur la musique que je suis le plus difficile sur la musique. Mais quand même, à date, j'ai pas refusé 10 millions d'albums parce qu'en général, ceux qui s'adressaient à moi comprenaient c'était quoi les goûts du label, puis donc il y avait une certaine conscience. Donc, souvent, ça me plaisait. Pour ce qui est des pochettes, c'est une autre histoire. Mais par contre, à ce niveau-là, je suis pas vraiment difficile. Je trouve ça important de garder la pochette d'origine. C'est sûr et certain que si l'artiste me demande si je peux lui faire une pochette plus intéressante, ça va me faire plaisir de le faire. J'en ai fait tellement des pochettes. Tu sais, toutes les musiques moléculaires, une cinquantaine d'albums, la quasi-totalité, c'est moi qui les ai fait essentiellement avec mes photos. Bon, à la fin, j'essayais un petit peu le IA, les générations par IA. Ça donnait complètement un autre genre de pochette. C'est quand même cool. Fait que après ça, c'est ça. J'ai fait aussi les pochettes de Men in Shadow, puis je les ai faites essentiellement avec le IA. Fait que ça aussi, ça a été une expérience le fun, mais j'impose pas ça à personne du tout, du tout. Normalement, en fait, les gens me proposent leur pochette. Donc, ça serait même pas vrai de dire que je fournis la plupart des artistes en pochette. Ça arrive peut-être souvent, mais c'est pas systématique. Les gens essentiellement me fournissent leur propre pochette. Puis d'une façon naturelle, ça donne un beaucoup d'œil quand même quand je regarde tous les albums un après l'autre. D'ailleurs, c'est drôle de voir des fois comment le hasard fait que tu retrouves des pochettes plus ou moins du même genre, une à côté de l'autre. Là, tu regardes ça, tu te dis, aïe, aïe, c'est un peu fou, ça. C'est genre le même genre de forme, le même genre de couleur, c'est arrivé totalement par hasard. En tout cas, ça fait partie des, ça, je trouve, des plaisirs qu'il y a avec mon label, parce que c'est pas Dans mon labo, les choses sont pas réfléchies pendant 50 ans. Tu sais, c'est fait, tout est fait relativement rapidement pour voyager léger en ce qui me concerne, pour que ça soit pas trop lourd, pour pas que l'expérience du labo devienne quelque chose de pesant, puis que bon, à chaque sortie, je me dis, bon Dieu, ça va durer encore combien de temps? Non, non, c'est ça. C'est la journée que ça va être trop lourd, je vais simplement ralentir un peu la cadence proportionnellement. Je vais passer de 3 albums par semaine à 2 albums. Si 2 albums, c'est encore trop, je passerai à 1 album. Je pense que 4 albums par mois, ça serait quand même un peu chiche par rapport à ce que je sors comme album actuellement. Mais c'est malgré tout, 4 albums par mois, c'est quand même énorme si tu considères des vrais labels traditionnels, commerciaux, là. Donc, on verra bien avec le temps, mais je pense que j'avais bien répondu.
Bien sûr, non, mais après, du coup, non, c'est bien, un album, ouais, ça fait quand même 4 albums par mois, donc ce qui est pas mal, hein. C'est pour ça que du coup, tu sors 3 albums par semaine, lundi, mercredi, vendredi, je crois que c'est ça, les jours de sortie d'album, et donc du coup, ça permet effectivement d'avoir des produits finis assez rapidement et de proposer justement des artistes de divers horizons, que ce soit par leur lieu d'habitation, hein, que ce soit sur les différents continents du monde. Voilà, après tout le monde est le bienvenu. Justement, est-ce qu'un, par exemple, un jeune artiste qui cherche un label, voilà, comment il peut faire pour te contacter, justement, par le biais de Bandcamp, de musique moléculaire, ou il y a d'autres moyens de te contacter pour te proposer, justement, un
ça
album?
Ça ne dérange pas. Disons, quelqu'un peut me contacter, bien entendu, en devenant contact avec moi sur Facebook, là, mon compte perso, qui est assez invisible parce que finalement, toutes les publications que je fais sont pour la grande majorité publiques, puis qui n'ont pas rapport spécialement avec ma vie personnelle, mais plus des publications que je fais pour Musique Moléculaire, puis bon, des photos. J'aime beaucoup la photo, souvent je publie les photos des autres par-ci par-là pour agrémenter, mais sans blague, c'est ça, c'est que mon compte Facebook me sert beaucoup plus pour mon label que n'importe quoi d'autre. Quelqu'un peut facilement, disons, devenir contact avec moi, puis me poser la question de si ça tente de publier quelque chose, mais il peut passer aussi par Bandcamp. Quand on passe par Bandcamp, on peut, à certaines places, il y a un lien pour contacter l'artiste, là. Donc ça marche très bien. Ça va m'envoyer un courriel, puis ça ne s'amasse pas dans le spam, donc il n'y a pas de problème. Je peux les lire. Donc, c'est ça. Quelqu'un peut passer par là. Par courriel, s'il y a mon courriel d'ailleurs, mettons que quelqu'un passe par mon site. Mais j'ai encore mon... Ben, j'ai encore. C'est que j'avais fait un site qui s'appelait musiquemoléculaire.com. Ce site-là servait uniquement pour mon duo. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à sortir beaucoup d'artistes sur mon label, ben, j'avais un peu abandonné ce site-là. Parce que je me disais, ça servait juste pour mon duo. Mais finalement, je l'ai ressuscité parce que j'ai ajouté les artistes que j'ai sur le label. Puis ce qui est intéressant avec mon site WordPress, c'est que ça permet de consulter quelle est la discographie de tel ou tel ou tel artiste que j'ai sur mon label Bandcamp. Parce que là, la façon que c'est fait Bandcamp, si tu n'as pas un compte qui est officiellement un compte de label, moi, j'ai un compte d'artiste, tout simplement, sur Bandcamp. Le compte d'artiste ne te permet pas d'avoir une vue où tu vois tous les albums de l'artiste qu'il y a sur le label. Fait que c'est là que mon site WordPress est intéressant parce que j'ai mis les adresses, les URL de mon site WordPress pour l'artiste sélectionné dans l'info, je ne sais pas si c'est bien clair mon affaire, là, dans l'info de chaque album que j'ai publié sur Bandcamp. Autrement dit, si, exemple, t'aimes, je ne sais pas moi, Michael Baum, un album que tu es en train d'écouter, tu vas voir l'adresse du site WordPress Musique Moléculaire qui va lister les autres albums qu'il y a dans Bandcamp. Ça, c'est intéressant parce que, habituellement, en tout cas, moi, je suis quelqu'un comme ça, quand j'aime un artiste, je veux entendre le reste. Là, fait que c'est évident, je mets l'URL de l'artiste, l'URL personnelle de l'artiste, mais j'ajoute l'URL qui correspond à ça fait comme le filtre, en quelque sorte, de ce qui existe comme album de ce même artiste-là sur mon label.
D'accord. Tout ça, c'est par le biais de Bandcamp. Est-ce qu'on peut aussi écouter sur d'autres plateformes les différents morceaux? Tu es essentiellement sur Bandcamp.
J'ai coupé ça. Toutes les autres, là, Spotify, Apple Music, les compagnies, même YouTube, j'avais dans le temps un compte du temps quand j'avais le duo Musique Moléculaire. J'utilisais ça. Je trouvais ça quand même intéressant parce que c'est vrai que ça donnait une certaine visibilité de plus. Mais au bout du compte, quand j'ai commencé à intégrer des différents artistes dans le label, j'ai commencé à vouloir ajouter, on va essayer ça, un artiste comme Anywhere Out of the World, qui était quand même mon propre duo. Puis là, l'application qui permet de faire ça, je chialais de ça avait déjà fait ça dans le temps de Musique Moléculaire. Là, ça chialait, ça. Bon, que je prouve que tel son est un son qui est original ou pas. Puis là, à un moment donné, c'est compliqué, ça, parce que, tu sais, des fois, t'es sûr et certain que c'est originalement fait par toi, parce qu'il y a juste toi qui as mis la main à la pâte. Mais s'il commence à avoir quelqu'un d'autre, comment prouver quoi que ce soit au point de vue légal? C'est impossible. Donc, moi, je me suis juste pas embarqué là-dedans, parce que c'est juste trop compliqué d'imaginer toute la poutine que ça serait de gérer ça, que il y a des artistes qui aimeraient ça, que je publie, là, qui aimeraient ça avoir leur album sur les plateformes de streaming. D'autres aimeraient pas ça. Il y en a qui aimeraient seulement certaines plateformes puis pas d'autres. Ça serait une grande complexité. Ça serait trop complexe avec une centaine de projets. C'est sûr, si j'étais un label avec, mettons, 15-20 artistes, ça serait plus gérable, bien sûr, un peu au même titre qu'il y aurait moyen pour moi de faire plus de PR, des présentations plus touffues, mettre des notes d'album plus détaillées. Bon, ça serait le genre de choses qu'on peut faire quand on a moins d'artistes à gérer en même temps. T'sais, on peut prendre plus de temps pour chacun, ce qui est un avantage, bien sûr. Mais pour moi, mon objectif, c'est plus de présenter le plus de musique de qualité possible en peu de temps. C'est ça qui est drôle, hein, parce que c'est pas une question de quantité, mais une question de quantité et de qualité. C'est ça que je cherche, les deux en même temps, parce que c'est l'un n'empêche pas l'autre. Si je présentais 100 albums par semaine, qu'est-ce qui dit que les 100 albums seraient de mauvaise qualité? Hein? C'est peut-être des 100 albums de personnes qui ont travaillé ça pendant plusieurs mois chacun. Puis voilà, je les ai eus en même temps à publier. Puis boum, voilà, miracle! 100 albums de qualité en même temps. Je fais des blagues, mais c'est ça. Je dirais que ce qui m'intéresse le plus, c'est la surprise. C'est quand tu écoutes l'album, il faut quand même qu'il y ait une réaction, un enthousiasme spontané, une surprise. Quelque chose qui intrigue, quelque chose qui est déstabilisant même à la limite, quelque chose qui est à la fois comme familier et en même temps étrange. Tu as le goût d'en savoir plus. C'est fascinant, c'est un peu obsédant. C'est le genre de choses que j'aime dans la musique, qu'il y a des voyages de cet ordre-là, des voyages intérieurs. Tu n'as pas besoin de te faire expliquer c'est quoi le voyage. C'est toi-même qui le vis, qui le comprend par toi-même. Tu as ta propre vision personnelle de ce qu'est l'album. Ça, c'est le genre de choses qui m'intéresse le plus. Puis pour le reste, bon, c'est propre à chacun. Voilà.
Et justement, bah, les différents morceaux sont disponibles donc sur Bandcamp. C'est surtout là-dessus que tu postes en fait les différents albums des artistes.
Et oui, c'est uniquement là-dessus maintenant, uniquement parce que SoundCloud, je l'avais utilisé dans le passé du temps de musique moléculaire que ben, du haut. Puis finalement, ben, j'ai cessé d'utiliser cette plateforme-là parce que c'est, pour moi, elle apporte pas grand-chose d'intéressant, même s'il y a un côté plus communautaire là, qui permet de dialoguer. Mais je sais pas, j'aime pas tellement cette plateforme-là. Puis en plus, pour placer tous les albums que j'ai, supposons, là, ça coûterait ce que je payais dans le temps, c'est pas loin de 200 $ canadiens par année. T'sais. Bon, à un moment donné, tu te rends compte que tu payes ça pour absolument rien. Comparativement à Bandcamp qui est gratuit, là, tu sais, que les autres, ils se payent aux ventes que tu fais. Donc, le fait d'entreposer les albums gratuitement, c'est bien plus intéressant. Fait que c'est ça, je me suis limité à Bandcamp.
Tout à fait.
Volontairement.
Tout à fait. Et donc, c'est que des albums numériques. Tu cherches pas à faire des albums physiques.
Ah, ben ça, j'aurais aimé ça. Il y a un côté de moi qui, bien entendu, aurait trippé, là, bien sûr, des objets physiques. Il y a quoi de plus trippatif que ça? Hey, pense même à ça, des pochettes du temps des 33 tours, des grandes pochettes. Waouh! Vraiment, ça serait un plaisir fou. Mais c'est trop, tu sais, vous allez me voir venir. C'est trop énorme pour moi qui a pas assez de temps, puis pas assez les reins solides pour partir en affaire de même. Parce que dans le fond, il faudrait des investissements, selon moi, peut-être je me trompe, là, ça prendrait des investissements assez massifs de ma part pour pouvoir dire, OK, je suis capable de sortir une bonne quantité de CD. Bon, c'est sûr, j'imagine que le fait de sortir des objets physiques n'oblige pas de le faire pour chaque artiste que tu produis, mais tu sais, ça devient un peu potentiellement une nécessité s'il y en a plusieurs qui trippent sur la chose. Puis là, il y a toute la question de distribuer tout ça par le monde. Puis là, on regarde l'état du monde, je sais pas à quel point que ces temps-ci ça se passe bien, les livraisons, mais quelque chose me dit que c'est pas génial. Ça me tente pas de, c'est ça, de commencer à me faire dire, ah, je t'ai envoyé l'album, mais oh non, je l'ai pas reçu. Puis là, OK, mais on fait quoi, on rembourse. Puis, c'est assez compliqué. En tout cas, pour moi, c'est trop compliqué. Je pense que c'est un gars, peut-être une petite nature. Pour moi, j'aime mettre mon énergie, mes efforts, dans l'ultra simple réalité d'un label virtuel avec des albums numériques, tout simplement. Tu sais. Cela dit, si quelqu'un fait des copies physiques de ses albums, bien entendu que je mets les liens là où il le faut, là, tu sais, que ce soit, mettons, dans les notes de l'album Bandcamp ou dans la publication Facebook, supposons. Là. Mais c'est sûr que je m'attends quand même, malheureusement, à ce que les gens qui veulent faire à tout prix des sorties physiques, ils auront tendance à choisir d'autres labels, bien sûr, tu sais, qui offrent d'emblée ce genre de choses, puis qui offrent probablement plus aussi, hein, parce que souvent, il va y avoir des chroniques, les gens vont aimer avoir des chroniques de leur album, qui va arriver comme par magie, en même temps que la sortie ou pas longtemps après. Mais ça, tu sais, encore là, c'est pas magique, hein? C'est pas, ça arrive pas comme par enchantement. Ça peut arriver par enchantement, par hasard, là, si t'es chanceux, là, ben, c'est sûr que les gens, soit qu'ils payent, soit qu'ils ont leur contact, mais peu importe, ils se prennent à l'avance. Ben, c'est une grosse gestion. C'est ça l'affaire. Hein? Si t'as, je sais pas, aux alentours, comme moi, de 15 albums à publier par mois, ça ferait beaucoup d'aller-retour à faire pour pouvoir faire ça. Puis il y en a déjà pas pire d'aller-retour, hein, parce que, tu sais, comme on dit, il y en a qui donnent leur album prêt à publier, là, avec la pochette puis la musique, tout est prêt. Il y en a d'autres que des fois, ben c'est ça, des fois j'ai reçu des waves que finalement, effectivement, c'était pas masterisé, il n'y avait pas de pochette non plus, puis la communication, des fois, était plus laborieuse. T'sais, en général, c'est quand même assez fluide, mais des fois, c'était plus complexe. Fait que j'imagine difficilement, c'est ça, multiplier la complexité de ce que je fais par, mettons, par 10, parce que là, j'ajouterais, supposons, l'histoire de copie physique. Mais sérieusement, s'il y avait une façon simple de régler ça, ça serait tellement génial. Moi, ce que j'aimerais, ça serait le genre de service où qui serait fait un peu comme Bandcamp. Ça, c'est un rêve de licorne, mais un service qui serait fait comme Bandcamp, genre, ah oui, tu veux l'album, ben, clique là, puis tu vas te faire charger l'album que tu veux par la compagnie en question. Tout se passerait entre la compagnie puis le client qui veut l'album. T'sais, autrement dit, moi, qui est derrière le label, je n'aurais pas à être responsable de la vente en question, mais que cette entreprise-là pourrait être associée à mon label. Ça ne serait pas. Mais ça, je parle pour rêver, je ne pense pas que ça existe. J'ai pas vraiment fait la recherche non plus, là, mais ça serait peu probable. Parce qu'en réalité, il faut que tu payes à peu près de mémoire une centaine. Non, attends, 300 $ canadiens minimum pour avoir peut-être 100 albums avec une qualité de CD plutôt minimaliste, tu sais, quelque chose qui ressemble un peu aux copies que les gens faisaient avec leur graveur dans le temps, là. Fait que c'est ça, c'est quand même bien, mais c'est rien de fantastique. Fait que c'est quand même, faut mettre plus que ça comme argent pour chaque album. Imaginez, donc, 500 $ et plus fois 3, 1500 par semaine, fois 4, tu sais, ça devient vite fou. Il y a peut-être quelque chose que je comprends pas, cela dit, dans tout qu'est-ce qui existe comme possibilité, mais je pense que c'est trop fou pour moi. Je dirais, ça va être une occasion pour ces gens-là, dans le fond, d'être publiés ailleurs, finalement. Parce que de toute façon, si tu veux publier des albums physiques, c'est peut-être aussi que tu veux les vendre puis faire de l'argent avec, ça, c'est très possible, là. Puis quelqu'un qui veut faire de l'argent, est-ce qu'il va vraiment vouloir se faire publier par mon label? Voilà la question, finalement. Parce que mon label, c'est juste une passion qui est partagée. C'est le goût de faire mettre la curiosité chez les gens, augmenter le niveau de curiosité pour découvrir des nouvelles musiques. Thank you.
Il y a matière à faire, justement, sur le label. Plus de 300 artistes, même plus. Hein, je crois qu'on a dépassé les 300 depuis un petit moment.
340 albums.
340 albums, tu vois. Et puis, bon, ça risque d'augmenter encore dans les semaines à venir, j'imagine. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant à savoir, c'est si les gens sont intéressés, de se connecter justement sur ton Bandcamp pour se procurer les différents albums des différents artistes qui sont, comme on disait tout à l'heure, de différents horizons, que ce soit canadien, écossais, comme tu disais tout à l'heure, français, bien sûr, de Lettonie aussi, avec l'artiste Lunt aussi, tu es un artiste de Lettonie, je crois, Estonie ou Lettonie, en tout cas les pays de l'Est au niveau de l'Europe.
Oui, c'est un Français qui habite en Lettonie, effectivement. Ah, il y a vraiment du monde de partout. Hein. J'ai Michael Baum qui lui, vient d'Australie. T'as Jake de Voice Park qui vient d'Angleterre. T'as des gens qui viennent un petit peu des États-Unis. J'en ai pas encore beaucoup, j'en ai trois. Les Canadiens, bizarrement, je n'en ai pas tant que ça. Puis, quand on parle de mon patelin à moi, là, qui est le Québec, c'est rare qu'on se considère comme des Canadiens quand on parle des Québécois. Là, souvent, on dit, des Québécois. Si tu dis les Canadiens, c'est les non-Québécois essentiellement. T'sais. Pourquoi? Ça a toujours été comme ça. Les Québécois se définissent par leur identité de Québécois. Tandis que le reste des Canadiens se calculent comme Canadiens, se définissent comme Canadiens. Ça pour dire que des Québécois, j'en ai un petit peu, j'en ai une affaire comme 6 ou 7, mais il n'y a personne qui publie beaucoup actuellement du côté des Québécois. Il y a Copper Gear qui publie sur son propre label, ça je comprends ça, t'sais. C'est logique. Là. Cela dit, s'il veut publier sur mon label, eux, il y a zéro problème. Puis c'est ça, ce que je voulais ajouter, c'est que, il y a quelques Canadiens, mais pas beaucoup. Ça, j'aimerais en avoir plus. Des Français, c'est merveilleux, j'en ai des tonnes. J'ai pas calculé, mais je dois bien avoir une bonne trentaine certains. Ça, c'est le plus gros bassin et de très loin. J'ai un petit peu d'allemand, autrichien. J'en ai pas assez, j'aimerais en avoir plus. J'aimerais avoir plus un peu de toutes sortes de pays que j'ai pas encore nécessairement. Ça, c'est clair et net, là, parce que plus j'ai diversifié, plus je trouve ça plaisant. J'en ai un peu de Russie, ça, c'est le fun. Comme par exemple. Ce que j'ai publié dernièrement, Some Tones and Texture for a New Old Story. Ça, c'est un très bel exemple d'une musique absolument fantastique que j'avais découvert à peu près en 2022, faite par Sergei Ihiri. Quand j'avais découvert ça, je m'étais dit, my God, c'est vraiment phénoménalement à mon goût, ce truc-là. Puis là, 2 siècles plus tard, j'ai demandé si ça intéressait de publier. Puis il a dit oui, wow, sans musique moléculaire, quelle opportunité. Fait que c'est ça, je suis très intéressé d'avoir des gens de partout dans le monde. Pour moi, je ne suis pas dans un monde politique, je suis dans un monde artistique. Ce qui m'intéresse, c'est l'art. Ce n'est pas une question de philosophie ou de politique. C'est pas que ce n'est pas intéressant, n'est-ce pas, par les temps qui courent, là, mais je pense qu'il y a beaucoup trop il y a déjà assez de guerres comme ça un peu partout là. Tout ce que je veux c'est changer les idées avec un label qui fait changer les idées avec des gens qui veulent présenter de la musique qui va transporter l'esprit ailleurs que dans un monde des fois un petit peu trop un petit peu trop moche finalement mais c'est ça, il y a aussi de la beauté dans le monde puis la musique fait ressortir ça également.
Tout à fait. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Donc, je rappelle pour se fournir au niveau des différentes productions, comme je disais tout à l'heure. Donc, le Bandcamp, musique moléculaire. Donc, restez bien à l'affût parce qu'il y a énormément de sorties en tout genre avec des artistes de différents horizons. Dans les semaines à venir, vous aurez, si vous vraiment suivez la page de Musique Moléculaire, le label, toutes les informations sur les prochaines sorties. Mais en tout cas, Yann, merci d'être repassé par l'émission. Hein, depuis, on s'était parlé il y a quelques années. C'était les premières saisons d'Ambient Memory, je crois. Tu nous avais présenté justement ton projet.
C'était en 2022, me semble.
2022,
quelque chose comme.
Tout à fait, ça
devait être. Ou dans ce coin-là.
Ouais, ça devait être la deuxième saison.
Ça fait un bout, mais c'est.
Ça fait un moment, effectivement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On reste toujours à l'affût, comme je dis à chaque fois, des différentes productions que tu pourras justement nous proposer, qui sont assez prolifiques, justement, sur le label Musique Moléculaire. Sur Bandcamp. En tout cas, merci encore, Yann, d'avoir pris un petit peu de ton temps. Et puis, je te dis à bientôt.
Un grand merci à toi.
Eh ben non.
Un grand, grand merci à toi. Ça fait vraiment un grand, grand, grand plaisir.
Ben, plaisir partagé. Ben, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour que tu nous parles encore des différents artistes. Et puis, je ne sais pas, peut-être encore des choses qui évolueront au niveau du label musique moléculaire. Enfin, en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour que ça perdure encore très longtemps. L'émission se termine, j'espère que vous avez apprécié. Retrouvez toutes les infos sur Yann et son label Musique Moléculaire sur Bandcamp et Facebook. Nous avons pu écouter quelques-uns des nombreuses productions du label durant cette interview. Midnight Totem, extrait de l'album HPR, le titre You Betrayed Me. Georges Panneau, extrait de l'album Encounter, le titre Désintégration of Elements. Christophe Pechanaz, avec le titre Musique pour demi-sommeil, 1-5, extrait de l'album Musique pour demi-sommeil. Sergueï Iri, track 1, extrait de son album Selected Experimental Ambient Works, 2012-2016. Retrouvez dès demain le podcast de l'émission sur les plateformes habituelles. Je vous donne rendez-vous quant à moi la semaine prochaine pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous.